le roi invincible, le roi tout-puissant. C'est devant toi que nous nous prosternons ce matin pour proclamer tes merveilles, pour dire, Seigneur, que dans le ciel, sur la terre, personne n'est comme toi. Tu dépasses tous les hommes. Tu es digne d'être célébré, digne de louange et d'adoration. Merci pour ces instants que tu nous donnes, Seigneur, de nous tenir devant ton peuple et de parler de ta part. Ouais, cet instrument qui a besoin de toi. Au travers de lui, communique la vie à ton peuple et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous convie à la lecture dans Daniel. Daniel 6. Nous allons lire deux portions. 10 à 12. Et puis 25 à 28. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Versets 25 à 28. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute la terre qui habitaient, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on aille de la crainte, de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et la Bible dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a tous les moyens possibles pour accomplir sa mission. La mission de Dieu est dans son cœur. Vous savez que Dieu a créé l'homme pour qu'il accomplisse sa mission. La première mission, c'était de l'adorer. D'être avec lui et de l'exalter, de l'adorer, de le louer. Mais l'homme a failli. L'homme a préféré adorer l'idole, adorer la créature comme lui. Dieu utilise même un roi païen pour accomplir sa mission. et il l'utilise. Et le roi païen accomplit la mission sans s'en rendre compte. Ce matin, je vais parler de la fidélité de Daniel à Dieu. Et dans le développement de mon propos, je parlerai premièrement de la fidélité de Daniel à Dieu et ses implications. Et deuxièmement, je parlerai du message missionnaire du roi Darius. Revenons au premier point, la fidélité de Dieu. La fidélité de Daniel à Dieu et ses implications. Daniel a brillé par la fidélité à Dieu. Et c'était une fidélité au quotidien. Daniel vivait dans un environnement hostile. Et son seul secours, c'était son Dieu. La fidélité selon la Bible, c'est la constance, c'est le fait d'être ferme dans ses positions. Par exemple, les compagnons de Daniel devraient faire un choix entre obéir au roi ou à Dieu. Et les trois amis de Daniel ont obéi à Dieu plutôt qu'au roi. La fidélité, c'est aussi le fait d'être totalement et complètement digne de confiance. Job était un homme fidèle. Fidèle à Dieu. Parce qu'il était connu par Dieu pour sa fermeté et son amour pour lui. La fidélité, c'est aussi le fait de ne pas se laisser distraire par les circonstances de la vie, ni être vacillant dans ce monde. La fidélité, c'est rester d'aplomb, c'est-à-dire rester attaché à la parole de Dieu. Dans Proverbe 20, verset 8, Salomon dit, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Beaucoup de gens proclament leur bonté, ils proclament leur chrétienté, ils proclament leur appartenance à une religion chrétienne. Mais un homme fidèle, une femme fidèle, qui le trouvera? Qui la trouvera? Daniel priait son Dieu trois fois par jour. Il était quelqu'un de spécial, fidèle à ses engagements. Il s'est distingué par son intégrité et sa compétence au service du roi Darius. Peux-tu être distingué dans ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Distingué dans ta famille, dans ton environnement, dans ton quartier, dans ton lieu de service. Comment on te connaît dans ton milieu de service? C'est vrai, tu es là, nous te connaissons comme chrétien et chrétienne, mais comment tu vis dans le lieu de service? Quel est ton témoignage dans ton lieu de service? Dans ta famille. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, 2. Là, la Bible dit, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Amen. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, que chacun soit trouvé, comment ? Fidèle. Et la fidélité à Dieu implique deux choses importantes. La première chose, c'est l'épreuve. La fidélité, en d'autres termes, c'est aussi la foi en Dieu. et la foi et l'épreuve sont inséparables. Les hommes de foi, quand je dis les hommes, comprenez qu'il y a aussi les femmes. Les hommes de foi sont les gens les plus éprouvés. Et les épreuves, bien-aimés, sont des moyens que Dieu utilise dans nos vies pour un but. Vous savez, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Si un arbre porte des fruits mûrs, c'est sur cet arbre que les gens vont jeter des pierres. Alléluia. Si tu passes par des épreuves, alors que tu es attaché au Seigneur, sache que tu es sur le droit chemin. Amen. Amen. Par moments, les gens se lamentent. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi? Mais écoute, tu es de Dieu. Tu n'es pas de ce monde. Et l'ennemi qui s'oppose à Dieu s'oppose aussi aux fidèles à Dieu. Je disais, les épreuves sont des moyens utilisés par Dieu. Premièrement, pour nous former, nous parfaire, nous enseigner, à l'instar de Joseph, qui est passé par plusieurs épreuves. Joseph a connu la jalousie de son père, de sa famille, de ses frères. Et dans les familles, il y a aussi la jalousie. Par moments, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est seulement ma sœur? Est-ce que c'est seulement mon frère? Joseph a connu cela. Vendu par ses frères, plus tard, il s'est retrouvé en prison. D'abord, dans la citerne. Et tiré de là, il s'est retrouvé en prison. Dans tout cela, Dieu n'a pas seulement formé le caractère de Joseph, mais il a formé aussi pour la gestion des hommes et la gestion des biens. Joseph a commencé petit et il est allé en croissant. Pour devenir grand. Les épreuves l'ont malaxé. Les épreuves l'ont aiguisé. Et finalement, il est devenu grand, un grand homme. Acceptons de commencer petit pour devenir grand. Mais malheureusement, l'envie des gens, c'est de commencer grand. Si par hasard vous rencontrez un petit enfant qui a une grosse tête, qui parle avec une voix rauque, vous allez fouiller. Un enfant qui naît avec des dents, un enfant qui court, qui parle, cet enfant est dangereux. On va dire ça, c'est un sorcier, un monstre. On commence petit, on devient grand. Quand on commence grand, on finit petit. Les épreuves sont là pour nous former, nous parfaire, nous aiguiser, nous enseigner. Deuxièmement, les épreuves sont là pour nous rapprocher de Dieu. Dieu lui-même nous exhorte à nous rapprocher de lui. Dans Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qui sont fatigués et chargés? Ce sont ceux qui passent par les épreuves. Ils sont fatigués. Puis dans Jacques 4, 8, La Bible dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Frères et sœurs, dans la détresse, approchons-nous de Dieu. Nous avons une femme dans la Bible, elle avait un fruit de sang. Elle est passée par les mains de plusieurs médecins. Sans succès, sans guérison. Elle a entendu parler de Jésus qui passait. Elle s'est approchée de Jésus. Elle a dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Amen. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Quand il fait deux pas, Dieu en fait quatre. Dieu utilise les épreuves aussi pour nous garder à lui. À lui. Dieu nous veut pour lui seul. Le désir de Dieu est que lorsque nous venons à lui, que nous ne puissions plus le quitter. On ne vient pas au Seigneur pour le quitter. On vient pour rester attaché à lui. C'est pourquoi il dit dans Jean 15, verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. La fidélité de Daniel et sa compétence lui suscite la conspiration de ses ennemis. Très souvent, quand quelqu'un excelle, on dit, oh, attention, il a touché au feu. Quand nous sommes venus nous installer ici, eh bien, certains pasteurs du coin disaient, attention, ces gens de la borne. Si on a touché au feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Ses ennemis jaloux ne trouvent aucune faute professionnelle en lui et le piègent dans sa propre loi. Ils font signer au roi un décret interdisant de prier pendant 30 jours, d'adresser la prière au Seigneur pendant 30 jours. Il attaque au travers de sa piété. Frère, sœur, sache que si tu es fidèle, l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. C'est ce qu'il faut savoir. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, mais aussi une vie de victoire. Et cela me conduit à parler de la seconde chose dans concernant les implications de la fidélité à Dieu. La seconde chose, après l'épreuve, c'est la délivrance. La fidélité à Dieu attire la compassion, sa compassion, et entraîne des merveilles. Ne voyez pas que l'épreuve, voyez plus loin que l'épreuve. Au-delà de l'épreuve, plus loin que l'épreuve, si on est fidèle à Dieu, eh bien la délivrance arrive. Cela arrive. Condamné par la loi irrévocable des Mèdes et de Perse, Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu le protège. Il envoie son ange fermer la gueule de ses lions. Un miracle, n'est-ce pas? Daniel commence à caresser les lions comme des chiens. Et je me dis, les lions ont vu en Daniel un autre lion, le lion de la tribu de Juda. Dieu le protège. La Bible nous dit, le malheur atteint souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a une nuance entre souvent et toujours. Le malheur, c'est pas toujours, mais c'est souvent. Mais la délivrance, c'est toujours. Amen. Et cela me conduit à parler du second point, le message missionnaire du roi Darius. Sachez que Darius était un païen. Dans ses messages, il parle premièrement des destinateurs de ses messages. Il parle de son contenu. Il parle de ces deux points. Mais qui était le destinataire de ce message de Darius? Darius destine ce message à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre. Ces termes que Darius utilise, ce sont des termes qui parlent de la mission. Il parle des peuples, des nations, des langues et de la terre. Eh bien, ces termes sont appelés les motifs missiologiques. Donc, Darius fait la mission sans s'en rendre compte. Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire sa mission. Alléluia. Il utilise n'importe qui. Parfois de façon inconsciente. C'était un païen, mais il était en train de faire la mission, d'accomplir la mission de Dieu, sans se rendre compte, sans savoir. N'est-ce pas que Dieu appelle Cyrus son serviteur. Est-ce que Cyrus était croyant? Répondez-moi. Non. Est-ce que Nebuchadnezzar était croyant? Non. Mais des serviteurs de Dieu. Dieu leur donne une mission. Par moments, les gens se moquent de Dieu, mais ils accomplissent la mission de Dieu sans s'en rendre compte. Dieu est omniscient. Il sait bien faire les choses. Par le truchement de Daniel, le cœur de Darius sera touché. Darius sera émerveillé. Et il va envoyer, il va écrire une lettre et la destiner à tous les peuples, à toutes les nations. N'est-ce pas que l'Évangile est pour tous les peuples? L'Évangile est pour toutes les nations? L'Évangile est pour la terre entière? L'Évangile est pour toutes les langues? L'Évangile est pour toutes les races? Il a accompli la mission sans se rendre compte. Et quel est le contenu de cette lettre, de ce message missionnaire de Darius? Le roi Darius intime un ordre. Il demande qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Wow. Est-ce que les gens peuvent avoir de la crainte et de la frayeur pour ton Dieu? Pour ton Dieu. Pour ton Dieu. La crainte et la frayeur pour Dieu nous poussent à une bonne conduite, à un bon comportement. Mon comportement, ton comportement devrait pousser les païens à avoir de la frayeur et de la crainte pour Dieu. Dans 1 Pierre 2, 12, la Bible exhorte tout chrétien en disant « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Dieu exige que tout enfant de Dieu reflète son image. Parce que Dieu est bon. Qu'il neige, qu'il pleuve, Dieu est bon. Alors, tu es appelé à afficher un bon comportement partout où tu te trouves. Car c'est un moyen, c'est un des moyens que Dieu utilise pour attirer plusieurs à lui. Au travers des épreuves que les chrétiens rencontrent, Dieu manifeste des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Souvenez-vous des enfants d'Israël en Égypte. Ils ont connu des situations difficiles. Ils ont connu la souffrance, la mort. Mais Dieu a utilisé des signes et des prodiges pour les faire sortir de là. Et la suite, c'est qu'il y a eu un peuple qui n'était pas d'Israël qui a décidé de suivre le peuple d'Israël. Alléluia. Ces peuples, on les appelle comment? Les ramassis. Les ramassis. Ça, vous pouvez voir dans Nombre 11, verset 4, et même dans Exode 12, verset 38. Et là, dans Exode 12, 38, la Bible dit, « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Premièrement, Darius intime l'ordre. Il demande qu'on ait de la frayeur, de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Deuxièmement, le roi Darius reconnaît la puissance du Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel est le Dieu de la bannière. Ce Dieu est extrêmement puissant. Puissant pour changer des situations. Il y a une sœur au milieu de nous qui était découragée et je les voyais à travers son attitude, mariée mais n'avait pas d'enfant. Les années se sont passées. Je l'ai appelée, j'ai dit, ma soeur, je vais te voir au bureau avec ton mari. Ils sont venus. Et je lui ai dit, je vois que tu es découragée parce que tu n'as pas encore un enfant. Ça fait quelques années. Elle a dit, oui, pasteur, je vais prier pour vous. Continuons de prier. Dieu reste Dieu. Il agit en son temps. Nous avons prié ensemble. Et puis, ils sont partis, ils ont quitté mon bureau. Je crois un mois après, ils sont revenus. Ils ont dit, pasteur, on a une... 2 mois après, je pense. On a une nouvelle à vous donner. J'ai dit, la bonne. Oui, pasteur. Depuis 2 mois,
j'attends famille. Et on a prié encore pour que la grossesse se développe, pour qu'elle accouche merveilleusement bien. Parce que Dieu, lorsqu'il donne quelque chose, il ne nous donne pas par regret, pour qu'on regrette après. Il nous donne pour que nous puissions nous réjouir. Le roi Darius reconnaît la puissance du Dieu de Daniel. Le roi est émerveillé par ce qu'il vient de vivre. Et ainsi, il proclame la grandeur, la magnificence, la toute-puissance, le royaume du Dieu de Daniel. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Alléluia. Oui, il est le Dieu vivant. Job l'a dit en d'autres termes. Dans Job 19, verset 25, Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Les autres peuvent s'élever. Mais celui qui s'élève le dernier, c'est celui qui est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Et ça, c'est un roi païen qui reconnaît cela. Il dit, le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Tu ne pries pas un morceau de bois. Tu ne pries pas une idole. Notre Dieu, on ne le porte pas autour des reins. On ne le porte pas sur le cou. Notre Dieu, on le porte dans le cœur. Mais laissez-moi vous dire que nous le portons dans le cœur, mais c'est lui qui nous porte dans ses bras. Il est vivant au siècle des siècles. Il ajoute, il dit, il subsiste éternellement. C'est pour dire que la vie humaine est courte et fragile. Mais l'existence de Dieu reste pour toujours. Dieu s'appelle l'Éternel. Il ajoute, son royaume ne sera jamais détruit. Waouh! Les satrapes et les autres de l'administration de Darius voulaient détruire le royaume de Dieu en s'attaquant à Daniel. Mais son royaume ne sera jamais détruit. Alléluia. Les Romains ont tué Jésus. Et ils se sont dit, c'est fini. Il est mort. Et certainement, ils se sont dit, nous allons célébrer la victoire. Mais le troisième jour, ils étaient surpris. Jésus est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Son royaume ne sera jamais détruit. Le royaume de Dieu est présent et à venir. Le royaume de Dieu est là au milieu de nous par l'évangile. Et le royaume de Dieu sera visible quand le Seigneur reviendra chercher son Église. Il ajoute, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est Dieu qui domine toujours. L'homme peut monter, il peut descendre, mais Dieu reste aux commandes. C'est lui qui domine. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas l'ennemi. C'est mon Dieu qui domine. Alléluia. Et ça, ça sort de la bouche d'un roi païen. Ah. Il ajoute, il dit, c'est lui qui délivre et qui sauve. Ça, c'est vrai. Dans Proverbe 21, 31, le sage dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est lui qui délivre. C'est lui qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui seul. C'est lui. C'est lui. Est-ce que par hasard, Darius n'avait pas appris l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils traversaient la mer Rouge ou le Jourdain? Ça, je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Il fait des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et finalement, il dit, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Laisse-moi te dire qui peut te délivrer, toi. Toi aussi. De la puissance des lions modernes. Je voudrais terminer en vous prodiguant quelques conseils tirés de ce récit. Appelez ça conseil ou des leçons. Il y en a trois. Premièrement, il faut garder sa foi inébranlable lorsque les pressions sociales et les lois favorisent la peur et les compromis. Garder sa foi inébranlable. Ne bougez même pas d'un pas, restez là. La parole de Dieu ne change pas. Et cela entraîne que ta foi ne vacille pas non plus. Apocalypse 2:10, le Seigneur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et vers la fin, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Deuxièmement, il faut se rappeler que la prière est un ancrage profond qui relie le croyant à Dieu. Un ancrage profond, c'est-à-dire un enracinement stable qui te relie avec ton Dieu. Malgré les circonstances de la vie, la prière ne lâche pas prise. Prie et prie encore. Même si tu ne vois rien, continue de prier, persévère. C'est comme Élie avec la pluie. Il ploie ses genoux, il met la tête entre les genoux, il prie. Il envoie son serviteur la première fois, rien. Il envoie encore, rien. Il continue de l'envoyer, rien. Et la septième fois, c'est le chiffre de l'Éternel. Il dit, je vois un petit nuage. Oui, les grandes choses commencent par les petites choses, comme je l'ai dit. Et bientôt, le ciel va s'obscurcir et une pluie torrentielle va tomber. Prie et prie encore. Ne te laisse pas envahir par les découragements. Et enfin, la troisième chose, il faut toujours compter sur la protection divine. Toujours. Pas sur les hommes. Pas sur les oncles, les tantes, les grandes sœurs, les grands frères. Comptez sur la protection divine face aux lions modernes de l'épreuve, de la maladie ou de l'injustice. Amen. Nous allons prier. Frères et sœurs, ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin, es-tu fidèle à Dieu comme Daniel? Et si tu es fidèle, veux-tu rester fidèle à Dieu comme Daniel?
dit oui, que le Seigneur soit glorifié. Sinon, nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour toi. Peut-être sont les épreuves de la vie qui font que tu ne sois pas fidèle. Mais les épreuves de la vie, comme nous l'avons vu ce matin, ne sont pas là pour nous éloigner de Dieu, mais pour nous rapprocher de Dieu. Pour que Dieu nous garde à lui. Pour que Dieu nous aiguise. Ne prends pas ça en mal. Dieu t'aime. Il aime chacun de nous. Même s'il y a l'épreuve, mais sache que plus loin, Dieu te réserve la délivrance. Il te réserve la délivrance. Es-tu touché par ces messages? Veux-tu que nous puissions prier pour toi? Là où tu es, tu lèves seulement ta main, là où tu es, et nous allons prier pour toi. Merci pour les mains levées. Pour les mains qui s'élèvent, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse. Ce Dieu n'a pas changé, il est le même. Et sa puissance aussi n'a pas changé, elle restait la même. Il change des situations. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous tenir sur vos pieds. Nous voulons prier ensemble avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez bénis. Ernest.
Précieux Père Céleste, c'est le nombre. Est-ce que nous te sommes sincères? Que celui qui est encore touché s'élève, parce que moi-même je le suis. Que celui qui est encore touché s'élève, nous allons implorer la grâce. Nous allons implorer la grâce. Nous allons implorer la grâce. Oui, la grâce. S'il vous plaît, la grâce. La fidélité de Daniel à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Tu ne parles jamais, alors jamais en vain. Jamais. Non, tu n'as jamais parlé en vain. Autant quand tu envoies la pluie, elle ne tombe jamais sans jouer son rôle. Et ta parole est la vérité. Alors ce matin, tu nous as pointé Daniel. Daniel, homme comme nous, mais aujourd'hui modèle. Et tu l'as présenté à nous par ton serviteur. Alors Seigneur, nous nous humilions devant toi, alors que nous passons par des moments d'épreuve, alors que nous passons par des moments incompréhensibles. Tu envoies ta parole, Seigneur. Par moments, quand on écoute ta parole, on se dit, est-ce qu'il était avec moi dans ses secrets? Oui. Tu es là. Et la belle manière de le faire, c'est quand tu viens le dire publiquement. Alors on est touché. Touché ce matin. Atteint. Atteint. Merci pour ta parole. Parce que l'onction de cette parole, l'onction de cette parole, touche une âme ce matin. Touche un cœur ce matin. Le mien, Seigneur, est touché. Le mien, Seigneur, est touché. serviteur a dit, ne comptez point sur les hommes. Non, ne comptez point. Daniel n'a pas compté sur un homme, quel qu'il soit, même le roi. Non. Il a compté sur toi. Alors ce matin, nous comptons tous sur toi. Nous prenons ancrage sur toi. Seigneur, merci. Parce que tu as parlé, permets que le feu du Saint-Esprit nous brûle. Et que toute pensée humaine qui viendrait de je sais où soit ce matin calcinée par le feu du Saint-Esprit. Et que l'obéissance à ton nom demeure.
Alléluia.
Merci pour ton serviteur. Seigneur, je fais une prière pour lui et lui seul. Tu l'as établi. Je reconnais que le jour où il rentrait de Lomé, Seigneur, il a apporté une parole à la borne, et j'y étais. Mais je ne savais pas que tu as déposé autant. Seigneur, s'il te plaît, garde-les pour nous. Nous avons besoin d'être nourris assez, parce qu'il nous parle de toi et de toi seul. N'est-ce pas que tu es la vie? N'est-ce pas que tu es le chemin? N'est-ce pas que tu es la vérité? Alors garde-les en bonne santé pour qu'ils continuent ton œuvre.